Il est 7h.
Le week-end de l'Ascension est une période où il y a quand même beaucoup de personnes qui ont de la disponibilité.
Un pont pour profiter et un pont pour se faire vacciner. Près de 430 000 injections hier en France, avec notamment des centres de vaccination éphémères qui voient le jour pour ce week-end prolongé. La vaccination qui permet aux États-Unis de lever l'obligation de porter le masque en intérieur. Dans ce journal aussi, des photos du Festival de Cannes aux retombées du plan de relance quand le gouvernement tente d'anticiper les conséquences d'une victoire du Rassemblement National en PACA. Et puis un joli coup de pouce pour un petit groupe de rock nantais qui s'est vu invité à la télévision américaine. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré, avant le regard international de Vincent Hervouet.
Le retour du conflit israélo-palestinien fait des victimes collatérales. Joe Biden et les nouveaux alliés arabes d'Israël se retrouvent piégés.
L'édito sport, Virginie Fulpin. Et puis avant 7h30, on retrouve bien sûr Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu. Pourquoi appelle-t-on un soutien-gorge un soutien-gorge?
Très bonne question et la réponse dans une vingtaine de minutes. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et c'est aussi à cela que sert la vaccination. Aux États-Unis, les personnes ayant reçu leurs deux doses de vaccin vont désormais pouvoir se passer de masques en intérieur. C'est un grand jour pour l'Amérique, a commenté hier soir un Joe Biden tout sourire.
Si vous êtes entièrement vacciné, vous n'avez plus besoin de porter un masque, à l'intérieur ou à l'extérieur. Je pense que c'est une grande étape, un grand jour. Vous avez le droit de faire quelque chose pour lequel les Américains sont connus dans le monde entier, accueillir les autres avec un sourire.
Sourire, dit Joe Biden, qui en profite donc pour appeler les Américains à aller se faire vacciner.
Une campagne de vaccination qui se poursuit en France. En ce week-end de l'Ascension, si certains centres ont dû fermer leurs portes faute de personnel, d'autres ont vu le jour à l'occasion de ce pont, comme à Foix, en Ariège, où Benjamin Péter a rencontré pour Europe 1 un primo-vacciné heureux.
Ça va mieux. Vivement la deuxième dose.
Guillaume est soulagé. Ce jeune papa avait hâte de recevoir cette première injection.
J'ai vu le rendez-vous, j'ai fait « Ok, on prend. » Comme ça, on est tranquille pour les vacances. On sait qu'on pourra revenir à le faire avant de partir en vacances. Et puis bon, pour aller voir la famille et tout, c'est vrai que ça sera plus agréable d'être vacciné vu que tous les grands-parents sont vaccinés.
Comme lui, 770 personnes ont pu profiter de ce centre de vaccination éphémère hier. Pour le docteur Philippe Calégeac, qui est le responsable ici, c'est un moyen de toucher davantage les actifs.
Le gouvernement ouvre de plus en plus la disponibilité des créneaux de vaccination à des personnes de plus en plus jeunes. Ces personnes travaillent, donc il faut aussi qu'il y ait des disponibilités en dehors des heures de travail. Le week-end de l'Ascension est une période où il y a quand même beaucoup de personnes qui ont de la disponibilité.
Alors la mairie a fourni la salle et pour le personnel, ce sont en grande partie des élus ou des bénévoles comme Camille, qui est infirmière mais est venue sur son jour de congé.
Je prends sur moi, au lieu de me reposer, je viens faire de la vaccination, juste pour aider. Je trouve que c'est important de participer à cet effort national, c'est normal. Plus on sera nombreux à donner notre temps libre, plus on en sortira, j'espère, assez vite.
Et notamment grâce à cette opération, d'ici la fin du week-end, le nombre de personnes qui ont reçu au moins une dose devrait atteindre les 77 000 dans le département, soit plus d'un Ariégeois sur deux. À Foix, Benjamin Péter, Europe 1.
Un week-end de l'Ascension qui est aussi et surtout l'occasion pour chacun de souffler, de prendre l'air après des semaines de restrictions. 4 jours dont profitent également les professionnels de l'hôtellerie pour se relancer. Reportage dans un camping de Cheverny en Val-de-Loire. Nicolas Feldman pour Europe 1.
Ce qui nous a manqué le plus depuis un an, c'est être ensemble.
Salut !
L'occasion était trop belle pour cette bande de copains. 5 familles, une 15aine d'enfants. Ils viennent de Nantes, de Lyon, de la région parisienne. Et un point de ralliement, c'est bungalow à l'abri des saules pleureurs.
Moi, je vis à Saint-Denis, donc l'ambiance, c'est plus le béton. Là, le contraste nous fait beaucoup de bien. Ça va nous faire une grande respiration pour ce week-end.
Et ce ne sont pas ces quelques gouttes de pluie qui vont gâcher la fête.
Si on doit faire des parties de cartes ou juste déconner entre copains sous les tentes ou dans les bungalows, ce sera déjà très bien.
D'autant que les enfants, pour le moment, s'occupent au calme à l'abri.
Ça va les
campeurs ?
À l'extérieur, Laurent, le gérant du camping, est un homme heureux. Toutes ses locations sont occupées.
Notre métier, c'est quand même d'accueillir les vacanciers, d'échanger. Donc oui, on est heureux. Aujourd'hui, c'est un vrai redémarrage avec des campeurs en caravane, en toile de tente, en location. On a besoin de cette villa. On en a été privé pendant longtemps. Voilà, c'était compliqué. C'est le grand week-end de la relance. On espère qu'il annonce plein de bonnes choses pour la saison.
Avec dès mercredi, une nouvelle étape dans le déconfinement, le gérant va pouvoir débâcher ses 2 piscines en extérieur et enfin rouvrir les terrasses du bar. Cheverny, Nicolas Feldman, Europe 1. Europe 1.
Et à l'inverse, la Guyane, elle, se reconfine aujourd'hui et jusqu'au 30 mai. Retour de l'attestation, déplacement limité à 10 km, fermeture des bars, restaurants et autres cinémas. Les établissements scolaires et les crèches, en revanche, restent ouverts.
Les écoles, où ont commencé à arriver ces derniers jours les autotests, présentés par le gouvernement comme une arme pour surveiller la pandémie. Une arme qui s'est quelque peu enrayée au démarrage.
Oui, avec une erreur sur les notices de près de la moitié de ces autotests. Le dispositif fonctionne, mais ce sont les explications pour lire le résultat qui pose problème. Pour Europe 1, Pierre Herbulot.
Une barre, vous êtes positif au Covid-19. Deux barres, vous êtes aussi positif au Covid-19. Voilà en substance le contenu de la notice de l'autotest PanBio. Un problème de traduction en français rapidement identifié par les enseignants et Philippe Vincent, président du SNPDEN, le syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale.
Pour tout vous dire, ça a beaucoup fait rigoler, quoi, parce que on se doutait bien qu'il y avait un résultat positif et un résultat négatif. Le plus gag dans l'affaire, c'est malheureusement que l'erreur porté sous le résultat.
Comique, mais sidérant, 43% des tests commandés par l'État ont cette erreur dans la notice.
On se disait quand même qu'au vu du nombre d'autotests commandés et du montant qui avoisine les 250 millions d'euros, on aurait pu sans doute prendre quelques précautions pour des produits qu'on allait adresser à des centaines de milliers de personnes.
L'éducation nationale a envoyé un mail rectificatif à tous les profs et les directeurs d'établissement avec une notice corrigée. Fin de l'histoire ? Pas vraiment. Le mode d'emploi de l'un des trois autres types d'autotests commandés cette fois pour les élèves a aussi un problème. Il est traduit sans erreur en 8 langues. Il manque simplement la version française.
Bon, a priori, trouver des traducteurs à l'éducation nationale, ça devrait pas être trop sorcier.
7h06 sur Europe 1. Votre journal se poursuit avec, dans un instant, la situation toujours tendue au Proche-Orient. Mais d'abord, cette confession sur Europe 1. Écoutez bien, où quand Michèle Alliot-Marie a vu le poste de Premier ministre lui échapper de peu.
Et si elle le raconte pour la première fois ce matin sur notre antenne, c'est qu'on a choisi de s'intéresser aujourd'hui à la place des femmes à Matignon. Pourquoi 30 ans, presque jour pour jour après la nomination d'Edith Cresson, aucun autre gouvernement n'a été dirigé par une femme?
Edith Cresson livrera tout à l'heure son analyse à 7h40, c'est mon invité. Pour Michèle Alliot-Marie, en tout cas, l'histoire de cette nomination avortée ressemble à celle de nombreuses femmes en entreprise.
Jean-Pierre Raffarin, qui était Premier ministre à l'époque, m'a appelé en me disant que le président de la République envisage de te nommer Premier ministre. Réfléchis-y, il faut s'y préparer. J'ai vu le président de la République le lundi matin. Très clairement, il m'a dit qu'il m'envisageait comme Premier ministre. Le mardi matin, il m'a appelé en me disant finalement que j'ai décidé de nommer Dominique de Villepin. Voilà. Et après, j'ai appris effectivement que dans la nuit, Dominique de Villepin était allé à l'Élysée pour le rencontrer et il lui proposait de faire une équipe entre lui-même et Nicolas Sarkozy, qui serait ministre de l'Intérieur. Je ne me serais jamais permis d'aller voir le président de la République pour vendre ma candidature au milieu de la nuit pour essayer de convaincre le président de la République qu'il aurait mieux valu me nommer que quelqu'un d'autre.
Michèle Alliot-Marie au micro Europe 1 d'Hélène Terzian. Quand Matignon est aussi un enfer pour les femmes, notre dossier tout à l'heure dans le journal de 8h.
La course au régional. Et finalement, Sophie Cluzel ne se présentera pas pour La République En Marche en PACA.
La secrétaire d'État salue la liste de rassemblement bâtie par le président sortant Les Républicains, Renaud Muselier. Elle lui apporte son soutien. Un retrait qui coïncide aussi avec la montée du candidat du Rassemblement National, Thierry Mariani, donné vainqueur cette semaine par 2 sondages.
Alors si le RN prenait la tête de la région, quelles conséquences concrètes? Bonjour Louis Dragnel.
Bonjour Mathieu.
C'est la question que se pose le gouvernement à la fois sur les symboles et dans les faits.
Oui, au-delà de l'impact politique d'un tel séisme qui renforcerait forcément la dynamique présidentielle de Marine Le Pen, il y aurait des effets d'image très négatifs pour l'exécutif. Par exemple, qu'à chacun de leurs déplacements en PACA, les membres du gouvernement soient accueillis par un président de région Rassemblement National, en l'occurrence Thierry Mariani. Autre conséquence très embarrassante, le Festival de Cannes. Pour de très nombreux ministres, il est insupportable d'imaginer des élus RN apparaître sur les photos des magazine à côté des stars du monde entier. En dehors de ces symboles, le plus fâcheux pour l'Élysée serait que le RN puisse être crédité des bénéfices du plan de relance impulsé par le gouvernement dans la région. L'exécutif a particulièrement investi en PACA, notamment dans l'économie locale et les infrastructures. un plan cousu à quatre mains par Emmanuel Macron et Renaud Muselier, un projet élaboré à un moment où le chef de l'État était encore convaincu du ralliement et de la victoire du président sortant de la région.
Explication et décryptage signé Louis Dragnel pour Europe 1. La confusion cette nuit au Proche-Orient. Dans un premier temps, l'armée israélienne a annoncé avoir positionné des soldats dans la bande de Gaza, ce qui aurait été une première depuis le conflit de 2014. Mais quelques heures plus tard, Jean-Sébastien Soldaini, l'armée est revenue sur ses déclarations.
Deux heures de flottement quand pourtant le porte-parole de l'armée israélienne en personne confirme que des troupes au sol mènent une attaque dans Gaza. Avant de se corriger lui-même. Erreur de communication ou bien coup de pression sur l'enclave, ce n'est en tout cas pas une trêve. Au milieu de la nuit, les tirs de roquettes se multiplient, les bombardements de l'armée semblent incessants. La couleur du ciel vire à l'orange et Assia, habitante de Gaza, se cloître dans sa maison.
J'écoute des grands bombardements intenses et les chars vont encore entrer avec des gens bien armés, un grand armée. Pour rien faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir de ma maison? C'est risqué. Rester à la maison aussi, c'était risqué. Je ne peux rien faire.
Elle garde en tête la dernière incursion de troupes israéliennes dans Gaza. 2014, 50 jours d'affrontements et plus de 2000 morts. Aujourd'hui encore, la communauté internationale semble impuissante. Le secrétaire général de l'ONU se borne à invoquer l'esprit de l'Aïd, la fin du Ramadan, pour faire cesser les combats.
Et l'ONU qui se réunira dimanche pour évoquer la situation au Proche-Orient à l'heure actuelle dans les deux camps. Les bombardements et les tirs de roquettes ont fait désormais plus de 100 victimes, dont une trentaine d'enfants.
Trois jours qu'il nargue les gendarmes, 350 gendarmes désormais mobilisés. L'auteur présumé d'un double homicide mardi dans les Cévennes est toujours recherché.
Présenté comme un solitaire apte à survivre en milieu hostile et après l'appel à la reddition lancé par les autorités en milieu de semaine, hier c'est son père qui s'est adressé à lui pour l'inciter à se rendre.
Valentin, c'est papa, je t'aime, nous t'aimons, nous avons tous besoin de toi. J'ai la garantie qu'il n'y aura pas feu si tu te rends maintenant. Mon fils, fais-moi confiance, je t'aime, nous sommes tous avec toi.
L'émouvant message d'un père à ce fugitif donc recherché depuis mardi et depuis qu'il aurait tué son patron et un collègue dans cette aciérie des Plantiers dans les Cévennes. La qualification hier soir de Monaco pour la finale de la Coupe de France, les Monégasques qui ont battu le petit club de Rumilly, équipe de 4e division. Monaco qui affrontera donc le PSG mercredi prochain en finale de la Coupe de France. Enfin, la belle aventure américaine d'un groupe nantais, Mad Foxes. Ce nom ne vous dit sans doute rien et pourtant il a été invité au Tonight Show de Jimmy Fallon, une émission suivie par des millions de personnes chaque soir. Angèle Châtelier nous fait découvrir ce groupe et cette séquence pour Europe 1.
Here's Mad Foxes.
L'émission américaine de Jimmy Fallon, le Tonight Show, rassemble des millions de téléspectateurs chaque soir. Les trois musiciens de Mad Foxes, eux, sont amis, viennent de Nantes et leur rock garage n'a été écouté que quelques milliers de fois sur les plateformes de streaming. Mais Jimmy Fallon les a entendus sur une radio.
J'ai entendu ce groupe et j'ai adoré. Il est vraiment fantastique.
Alors il leur a demandé d'enregistrer une session live pour son émission. Difficile d'envisager une meilleure exposition médiatique. Lucas Bonfils, le chanteur du groupe, n'en revient pas.
Au début, on croyait que c'était un canular, vraiment. C'était la meilleure promo possible. On a quadruplé d'écoutes sur les plateformes, aussi sur les vues sur notre clip. Donc ça fait super plaisir.
Et c'est un vrai coup de pouce pour promouvoir Ashamed, leur deuxième album qui vient de sortir. Pour l'instant, ils ne sont programmés que dans des petites salles en France à l'automne, devant une centaine de spectateurs, pas plus. Mais ce succès inattendu leur donne envie de se projeter beaucoup plus loin.
Mad Foxes, au moins ça réveille de bon matin.
C'est bien, moi je suis presque surpris que ce soit Jimmy Fallon qui me fasse découvrir un groupe français. Mais c'est pas mal. Mad Foxes, merci beaucoup Marion Calais. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à tous. 7h14.
Europe 1, Mathieu Béliard.